vote du budget primitif pour l'exercice 2024, budget principal. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, oui. Alors, vous allumez votre micro, s'il vous plaît, monsieur.
Oui, pour le budget, nous ne le voterons pas, car pour de différentes raisons. Nous regrettons l'absence dans le budget d'une section dédiée aux initiatives de transition énergétique et à l'adaptation climatique. Un budget répondant aux enjeux climatiques contemporains devrait inclure les lignes budgétaires spécifiques pour les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'adaptation au changement climatique. Vous nous avez expliqué au début du mandat que vous ne souhaitiez pas créer de délégation pour la transition écologique, nous expliquant que l'écologie, c'est dans toutes les actions que vous faites, ce qui pourrait être juste. Votre argument était ce n'est pas ce que nous constatons dans votre budget. Vous aimez remplacer vos budgets municipaux dans un contexte économique et plus large. Et bon, vous avez raison de le faire, mais il nous semble important de replacer aussi notre prospective budgétaire locale dans un second contexte, celui des grands enjeux qui nous impactent toutes et tous globalement et pour lesquels nous avons la responsabilité d'agir localement. Rambouillet n'est pas connecté qu'aux aléas économiques du monde, mais aussi à la crise climatique, à la raréfaction des ressources ou à l'effondrement de la biodiversité. À minima, chaque poste de fonctionnement et chaque investissement devrait faire l'objet d'une évaluation de son impact environnemental. C'est ce que l'État a commencé à mettre en place à son échelle depuis 2020 avec le budget vert, qui, hélas, vous l'avez signalé, eh bien, en diminution, et des outils existent qui peuvent être adaptés aux collectivités territoriales. C'est ce type d'outils qui permet réellement de faire de l'écologie et de l'environnement des thèmes structurants et transverses d'un budget. C'est ce type d'outils qui permet de mesurer objectivement les qualités environnementales et les défauts d'un budget. Ça doit fonctionner avec une planification écologique. Si le budget de notre ville ne se dote d'aucun thermomètre environnemental, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a même pas de bilan carbone sur la ville, il me semble, il est impossible de prendre sa température. Concernant la fiscalité, on voit que le fort coup de barre que vous avez donné en 2023 sur les taux d'imposition a été particulièrement violent. Cela transparaît dans les comptes, mais aussi, bien entendu, dans le ressenti des habitants. Avec 8,7 millions d'euros dégagés en 2023, qui est sur le tableau de bord d'évolution, d'euros dégagés, l'épargne nette de notre ville a atteint un record dû à la hausse de la fiscalité locale, ce qui est normal, puisque les taux d'imposition étaient forts. Pourtant, malgré le maintien pour 2024 et les années suivantes de ces mêmes taux élevés, et malgré l'augmentation mécanique des bases, l'épargne nette retombe brutalement à 3,3 millions d'euros dès cette année. Et vous prévoyez qu'elle continue de baisser pour atteindre en 2026, à la fin de votre mandat, 2,3 millions, soit moins de la moitié de ce qu'elle était quand vous avez pris vos fonctions en 2020. Je crois que ça tournait avant... autour de, enfin, j'ai plus les... 2 millions, je crois. Et encore, ces perspectives d'épargne se basent sur une augmentation des charges extrêmement optimiste pour 2025 et 2026, ce qui fait que après 2026, il va être obligé d'avoir un coup de barre important sur la fiscalité. Pour nous, votre perspective financière et fiscale présente un risque majeur que nous pouvons valider, celui de devoir de nouveau en 2027 engager une hausse brutale des taux d'imposition. Nous notons un désir. Voilà. Et ensuite, pour les ACP, CP, nous notons un déséquilibre dans la répartition dans la ville des investissements planifiés pour les AP, CP et la répartition des projets d'équipement, qui en général, l'ensemble de ces grands projets se concentrent désormais quasi exclusivement sur le centre-ville, plus deux projets La Clairière. Nous regrettons que les arbitrages budgétaires que vous avez faits écartent Ainsi, de nombreux quartiers qui ont besoin d'une action forte, nous pensons notamment à la Louvière où le Nical et le gymnase sont toujours en déshérence. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le budget 2024.
Alors, Monsieur Poulet, merci pour ces éléments que vous nous avez donnés. En ce qui concerne les enjeux environnementaux, alors, les bras m'en tombent, parce que, en effet, nous n'affichons pas une ligne enjeux environnementaux. Tout simplement parce que dans tous les projets, il y a ces enjeux environnementaux. S'il y a bien quelque chose que vous ne pouvez pas reprocher à la majorité municipale, c'est bien de ne pas penser à cette transition énergétique et à tous les effets que nous portons et tous les efforts que nous portons sur les réhabilitations énergétiques. J'en veux pour preuve. Avant même qu'il y ait cette crise, Monsieur Poulet, nous avons commencé dès le début du mandat avec la réhabilitation énergétique de l'école d'Arbouville. Nous attendions 30% d'économie de consommation d'énergie avec cette réhabilitation. Le bilan au bout d'un an nous montre que nous sommes à 40%. Excusez du peu, mais là déjà, nous travaillons pour l'environnement avec ces économies d'énergie. Nous avons créé un CLAE qui est en cours de finition de travaux. Il a été salué, d'autant plus que d'ailleurs nous avons bénéficié à la fois de subventions de la région, mais également de l'Agence de l'eau par rapport à ses caractéristiques environnementales. Donc vous ne pouvez pas nous dire que ce projet n'en fait pas partie. Sur toutes les réhabilitations de routes que nous faisons actuellement et de places de stationnement, nous sommes en train de désartificialiser pour permettre une pénétration des eaux de pluie et pour permettre une végétalisation. Alors, Monsieur Poulet, je veux bien tout entendre, mais sincèrement, nous dire que nous n'y sommes absolument pas, nous ne nous sommes pas attaqués à ce sujet-là, c'est tout de même un peu fort de café parce que dans chacun des projets, il y a cette notion environnementale. Je laisserai aussi la parole ensuite parce que monsieur, alors je peux aussi citer, et monsieur Petitpré pourra en dire un mot, sur la réhabilitation, nous avons des travaux à faire sur l'école Saint-Hubert. Alors quand vous dites que tout se concentre sur le centre-ville et la clairière, ce n'est pas vrai, nous sommes en train de réhabiliter, nous avons démarré la réhabilitation de la toiture de l'école Saint-Hubert, eh bien oui, ce sont des travaux qui sont plus lourds que ce que nous avions prévu au tout départ. Pourquoi ? Parce que nous profitons des réparations et de la réhabilitation de cette toiture pour y mettre une mini-station solaire. Je pense sincèrement que nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons en termes environnementaux. Par rapport au bilan carbone, Monsieur Poulet, je tiens tout de même à vous dire que nous avons été une des premières communes à faire un bilan carbone, puisque le premier bilan carbone date de 2011.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Et que là, vous verrez tout à l'heure, quand je vous donnerai la réponse que nous faisons au niveau de la Chambre régionale des comptes, que nous allons demander un nouveau bilan carbone. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et je vais laisser la parole ensuite à monsieur Petitpré. Je veux revenir sur la fiscalité également. Monsieur Poulet, oui, nous avons eu cette audace et ce courage l'année dernière d'augmenter la fiscalité. Beaucoup de communes ne l'ont pas fait l'année dernière. Beaucoup de communes sont obligées de le faire cette année. Elles le font cette année et elles seront obligées de le refaire l'année prochaine parce qu'elles le font de façon trop limitée. Et comme je vous le disais dans mon introduction, nous ne savons pas où nous allons et nous savons qu'en faisant les travaux que nous faisons aujourd'hui et en nous donnant les capacités d'investissement que l'on s'est accordé grâce, entre autres, à la fiscalité, mais pas que, les choix d'investissement que nous faisons cette année sont des choix qui sont responsables puisqu'ils vont amener à des économies de fonctionnement. Et je vous rappelle, je le répète et je le dis tout le temps, mais quand nous faisons 1 000 euros d'économies en fonctionnement, nous nous permettons de faire 5 000 euros d'investissement. Donc la fiscalité, nous l'assumons, elle était importante, elle était en effet nécessaire, nous n'appliquons pas de nouveaux changements du taux communal cette année. Et en fonction de ce qui passera, nous espérons ne pas avoir à le faire l'année prochaine. Je ne m'engage plus, parce que oui, je m'étais engagée à ne pas le faire, sauf que, en effet, Monsieur Poulet, vous n'aurez pas vu que depuis notre début de mandat, nous avons quand même subi une crise Covid, nous avons subi une crise mondiale au niveau de l'énergie, et que ça, ce sont des choses que nous, on ne peut pas prévoir. Donc aujourd'hui, raisonnablement, avec ce qui se passe au niveau des finances de l'État, j'espère sincèrement que nous n'aurons pas besoin de réappliquer une augmentation de la fiscalité. En tous les cas, pour cette année, nous nous permettons, et nous pouvons le faire, de ne pas appliquer d'augmentation de la fiscalité. Je vais laisser la parole à Monsieur Petitpré par rapport aux énergies renouvelables, et puis ensuite à Monsieur Gourlan.
Oui, alors d'abord, je voudrais juste dire qu'on ne soigne pas la transition énergétique avec un thermomètre. Or, mettre un budget, c'est comme si on soignait ça avec un thermomètre. Nous, nous sommes dans l'action. Et tout ce qu'on vous a dit là, c'est de l'action pour la transition énergétique, pour les économies d'énergie, pour la transition. Je cite tous les travaux qui ont été faits par la CEMIR, dont nous sommes majoritaires, pour toute la rénovation énergétique de tous les immeubles de la CEMIR. C'est en cours et c'est un très gros projet qui vaut beaucoup d'argent, qui n'est pas signalé dans les budgets que vous mentionnez. Les toits de l'école Saint-Hubert étant tellement financés par la région et par le SEY, ce n'est pas dans les budgets de la commune, et pourtant c'est une action de la commune au quotidien pour la réforme de ça. L'approvisionnement en gaz d'une partie de la ville en gaz agricole, avec une station qui est située à Sonchamp, ce n'est pas une action de la ville, mais c'est quand même porté par la ville et l'agglomération pour permettre cette transition énergétique au niveau de la ville. La station d'épuration, c'est aussi, par rapport à la ville, un endroit qui n'est pas dans les budgets de la ville sur lequel on fait des actions. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'un... Et alors, je vous invite à bien écouter le PLU tout à l'heure, parce que alors là, il y a un gros projet de transformation au niveau du PLU qui est vraiment et qui n'est pas chiffré dans un budget, dans un thermomètre pour la transition énergétique.
Merci, Monsieur Petitpré. Monsieur Gourlan.
Monsieur Poulet, il m'est arrivé quelquefois d'être dans des instances où je me suis retrouvé dans une situation de l'opposition, comme vous êtes actuellement. Et je me permets de vous dire de quelle façon j'aborde les choses. Il me semble que quand on est dans l'opposition, il y a deux façons de faire. Il y a soit une façon qui vire à la polémique, ou alors une façon qui est fondée. Et là, je suis surpris de vos propos parce que je ne retrouve aucun de vos chiffres. Pourtant, les chiffres, nous avons je termine. On les a partagés en commission des finances, ils ont été projetés, et puis on peut tout de suite le faire. Projetons-le, s'il vous plaît, monsieur Lefebvre.
Le tableau d'évaluation.
Oui, voilà, on va juste regarder ce tableau-là, vous voyez. Non, c'est le précédent. Le tableau, voilà, le précédent, celui-là.
Le tableau de bord, peut-être.
Voilà, vous avez l'épargne nette, monsieur Poulet, celui que je vous ai présenté en commission des finances.
Oui.
Voilà. Donc, l'épargne nette, alors je vais terminer mon propos, après on vous laissera la parole, mais je pense qu'il est toujours plus intéressant d'être dans l'opposition avec des fondements qui sont étayés que plutôt d'annoncer des sommes qui sont fausses. L'épargne nette, 8,7 millions en 2023. 3,3 millions en 2024, puis ensuite elle se restaure à 6 millions en 2025 et 4,4 millions en 2026. Vous le lisez comme moi, c'est marqué sur le tableau. Épargne nette, l'avant-dernière ligne, l'antépénultième, 4,4 millions en 2026. Voilà, je ne sais pas où vous avez été trouver vos sommes, donc elles sont là, elles sont affichées, j'invite la presse d'ailleurs à le dire. Après, si vous avez bien entendu ce qu'on s'est dit en commission, entre 8,7 millions et 3,3 millions, il y a 3,7 millions d'euros, monsieur Poulet, qui sont des recettes exceptionnelles en 2023. Qui, par nature, comme elles sont exceptionnelles, ne peuvent pas se reproduire dans les années suivantes. Donc, en fait, l'épargne nette réelle 2023, c'est 8,7 millions moins 3,7 millions, soit 5 millions d'euros. Donc, quand vous faites une moyenne d'épargne nette entre 5 millions, 3 millions, 3, 6 millions 2 et 4,4 millions, eh bien, nous sommes exactement conformes au bon ratio d'analyse financière des communes. Donc, je vous invite, deux choses, soit vous restez sur cette logique un peu polémique, et vous aurez les réponses que je vous fais là, ou alors je vous invite à venir me voir, je vous explique un peu mieux comment fonctionnent ces tableaux, et à ce moment-là, on polémiquera sur le fond et pas sur la forme.
Oui, mais d'un autre côté, d'accord, j'enregistre, mais effectivement, il y a une forte épargne, depuis l'augmentation de la taxe foncière, il y a eu une forte augmentation de l'épargne nette, ce qui était normal, quoi, puisque après, il y a une forte diminution, en fonction des dépenses aussi, et il y a une grosse augmentation d'emprunt aussi.
Attendez,
alors,
encore une fois, je pense que ce n'est pas le lieu de faire de la formation financière des collectivités. Je vous redis, les 8,7 millions 2023, il y a 3,7 millions dans ces 8,7 millions qui sont de nature exceptionnelle. Donc, si vous voulez refaire une analyse, affiner votre analyse, vous enlevez 3,7 millions et vous tombez à une épargne nette à 5 millions d'euros. Et cette épargne nette à 5 millions d'euros, c'est le choix que nous avons fait financier pour pouvoir rétablir les ratios de notre commune. D'accord ? Donc, je pense que vraiment, il faut que vous étayiez votre propos, parce que sinon, après, on tombe un peu dans des... dans des polémiques qui sont un peu stériles, voyez-vous, puisque les chiffres sont mal analysés.
Non, moi, je reste sur mes positions, parce que on arrivera à la fin, effectivement, où après 2026, on va être obligé de donner un coup de barre important pour rattraper.
C'est ce que vous dites est faux, Monsieur Poulet. Monsieur Poulet, ce que vous dites, 2024, 2025, ce 2026, que vous dites ne tient pas si on prend le temps de faire correctement l'analyse financière. C'est faux, ça ne tient pas ce que vous dites là. Donc, je peux très bien comprendre que vous ne soyez pas à un niveau de compétence qui vous permet d'analyser les choses, mais dans ce cas-là, soit vous étayez votre propos, je suis disponible pour vous expliquer ce qui se passe dans ce cas-là. On peut être pas d'accord sur des dimensions politiques, mais pas des choses, dire des choses fausses sur une lecture budgétaire aussi transparente que la nôtre.
Je ne suis pas sur les chiffres, je ne dis pas des choses fausses, mais c'est l'interprétation. Peut-être que ce n'est pas la même interprétation, je suis d'accord avec vous, mais je me base quand même sur les chiffres qui sont là.
Bah, les chiffres sont là, c'est 4,4 millions en 2026. Ce n'est pas ce que vous avez annoncé tout à l'heure, pas du tout.
Vous avez annoncé 2 millions, monsieur Poulet.
Je m'étais basé sur le tableau d'orientation budgétaire de la page 57.
Vous avez parlé d'épargne nette, c'est cette ligne-là dont vous avez parlé. Alors, objectivement, ce n'est pas le lieu, Madame la Maire, si on est d'accord, de faire une discussion de commission des finances. Ça relève de la commission à laquelle vous appartenez. Donc, posez ces questions-là à ce moment-là. Simplement, je termine mon propos par vous dire que dans la période actuelle, sociétale, il y a un moment, il n'y a pas de notion d'opinion dans la vérité. Il y a une vérité où il n'y en a pas. Il n'y a pas c'est votre opinion ou c'est la mienne. Ça ne marche pas, ça. Et cette façon de voir les choses ne me convient pas du tout. Moi qui suis de culture scientifique, je termine. Donc, ça veut dire qu'on prend le temps d'analyser les choses ensemble. Et après, si sur la trajectoire politique, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre liberté la plus stricte, mais pas d'annoncer des choses fausses.
Non, mais je me base sur vos chiffres.
Alors, Monsieur Poulet, ce que je vous propose, c'est que, comme vous l'a proposé Monsieur Gourland, et comme en plus vous faites partie de la commission des finances, Monsieur Gourland se tient à votre disposition pour vous éclairer sur la façon dont ces chiffres sont à interpréter, encore que ce ne sont pas des interprétations, c'est une réalité et non pas une interprétation. Voilà, donc je vous invite à ce moment-là à vous rapprocher de M. Gourland. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Juste, oui, par rapport à la transition écologique, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'évolution. Il y a effectivement des textes de loi qui imposent évidemment de faire de la transition écologique. Donc, on est bien obligé de le faire aussi. Mais par contre, il faut aller beaucoup plus loin.
Non. Alors, je vous arrête tout de suite, Monsieur Poulet. Il n'y a pas des obligations. Je suis désolée. Je n'avais pas l'obligation de faire les travaux de l'école d'Arbouville, les travaux de réhabilitation. Je n'avais pas l'obligation de faire le renouvellement, parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, le renouvellement, c'est inédit, un renouvellement complet de l'éclairage public. Ça, aucune loi ne nous obligeait de le faire. Pareil sur la toiture de l'école Saint-Hubert. Encore une fois, ce sont des travaux que nous voyons avec le pôle famille et le secteur scolaire. Quand il y a des travaux à faire sur les écoles, eh bien, désormais, nous préférons les faire de façon profonde avec les réhabilitations qui vont bien. Aucune loi, Monsieur Poulet, ne nous oblige à le faire. Nous prenons la décision de le faire en responsabilité parce que nous savons que, de toute façon, il y a un enjeu environnemental et il n'y a pas besoin d'être étiqueté écolo pour faire de l'environnement parce que nous sommes tous responsables de la planète que nous allons laisser à nos enfants, petits-enfants. Moi, je suis grand-mère et j'ai quand même envie de laisser à mes petits-enfants une planète qui soit suffisamment vivable. Et ça fait partie de notre ADN et de l'ADN de nos services. Je peux vous dire que les services techniques, entre autres, pourquoi je parle des services techniques ? Parce que c'est beaucoup eux qui agissent dans tous les travaux, que ce soit le bâti, que ce soit les espaces publics, ils ont parfaitement entendu, lorsque je suis arrivée dans le fauteuil de maire, qu'aucun projet qui ne serait posé sur mon bureau, s'il n'avait pas cette notion d'environnement, il repartirait directement au service, il ne serait pas validé. Je peux vous dire que ça a été immédiatement entendu et que aucun des projets qui sont proposés ne prend cet engagement au sérieux. Donc, encore une fois, il n'est pas question de mettre une ligne sur les enjeux environnementaux, il est question d'y travailler et d'y travailler sur tous les sujets, y compris sur les sujets d'accompagnement avec les enfants, parce qu'il y a tout un travail qui est fait, bien au-delà des travaux. Il n'y a pas que les travaux là-dessus, il y a aussi tous les projets que nous mettons en place avec, par exemple, les enfants et les familles et la restauration scolaire. Donc, sincèrement, nous y sommes et nous y sommes pleinement. Alors, est-ce que je peux porter aux voix ou est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Schmitt ?
Oui, oui.
Une petite explication de vote. Comme vous le savez, nous sommes trois dans le groupe et nous avions des vues. Disons que le budget était vraiment un sujet. Nous en avons beaucoup débattu. Avec bien sûr nos moyens qui nous sont donnés, nos compétences, nous avons analysé ce budget. Et nous avons bien entendu ce soir, comme à l'agglo, comme tout le monde, comme tout citoyen informé, nous savons, les années à venir vont être compliquées. Vont être dures pour les raisons que vous avez longuement expliquées en avant-propos et qui nous ont été aussi tenues à l'agglo et à d'autres, dans d'autres instances. Donc il y avait plusieurs possibilités de voter contre, de s'abstenir ou de voter pour. Voter contre, effectivement, ça nous a été à un moment donné, je veux dire, débattu dans le sens où le contexte économique et politique, je veux dire, nous invite à être prudents et à faire des économies. On voit que la municipalité, enfin, dans le budget, on voit qu'il y a des charges à caractère général qui ont augmenté. Augmenté de 16%. A contrario, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Si je prends un document que tout le monde doit avoir, ce qui était le programme de 2020, nous avons pu constater qu'un certain nombre d'actions qui ont été menées, et entre autres, des investissements sur l'éclairage public. Nous l'avions, on ne pouvait voter que pour, nous l'avions, je veux dire, prévu dans notre programme. On a vu aussi la construction du CLAE. Donc là aussi, nous l'avions, je veux dire, évoqué. On a vu aussi la réfection des bâtiments municipaux, équipements sportifs et culturels pour réduire les consommations énergétiques. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses, je veux dire, qui étaient... sur lequel nous étions nous-mêmes engagés, donc on ne va pas voter contre, je veux dire, on ne pouvait pas être contre ce genre de décision. On voit bien aussi que la masse salariale, nous avions proposé de renforcer la police municipale, ça a été fait, donc là, ce soir, bien évidemment, on ne peut pas, je veux dire, être contre. Par contre, vu les temps difficiles qui s'annoncent, et bien sûr que je peux aussi que regretter, Il est bien évident qu'on a quand même tout intérêt à s'engager dans une dynamique, je veux dire, d'économie forte, avec une parfaite maîtrise de la masse salariale, même si je sais, pour le pratiquer dans d'autres circonstances, que ce n'est pas spécialement les plus populaires, ce n'est pas spécialement les plus faciles, mais ce sont des décisions responsables, parce qu'effectivement, les décisions d'aujourd'hui font en sorte que demain sera plus facile ou moins facile à... Tiens, il y aura des caps plus ou moins faciles à franchir. Donc ça, c'était plutôt le côté pour. L'an dernier, on s'est positionné sur un contre. Tout simplement, c'est que les réponses qui nous étaient les réponses aux questions qu'on avait posées ne satisfaisaient pas. Là, il y a eu une vraie réflexion sur ce budget. Donc, on aurait pu s'abstenir, mais je pense qu'il y a bien une décision sur laquelle il faut être clair, c'est sur un budget. Soit on est pour, soit on est contre. L'abstention, à mon sens, n'est pas de mise sur ce type de questions. Donc ce soir, notre groupe va voter pour, mais avec bien sûr tous les éléments de réserve que je viens d'évoquer, ça sera plutôt un pour d'encouragement à continuer en ce sens à maîtrise de la dette, maîtrise de la masse salariale et de développer un plan d'économie que nous vous invitons à développer, à renforcer. Voilà la position du groupe Génération Embouillée.
Merci, Monsieur Schmitt. Alors, juste pour aller dans votre sens au niveau de la maîtrise de la masse salariale. La maîtrise de la masse salariale, évidemment, je peux vous dire que nous regardons, puisque j'ai la délégation des ressources humaines, donc je vois très régulièrement avec la direction générale des services et avec la directrice des ressources humaines l'évolution, et je peux vous dire qu'on la suit semaine à semaine et que nous avons des tableaux qui nous sont transmis mois par mois pour voir l'évolution. L'évolution de la masse salariale, elle est aussi due à des obligations. Elle est aussi due à des décisions du gouvernement d'augmenter. Encore une fois, je suis tout à fait satisfaite pour nos agents qu'ils puissent bénéficier d'augmentation. Mais ces effets-là ont tout de même une répercussion sur la masse salariale. Et puis, il y a des choses qui ont changé sous cette mandature. C'est entre autres l'extrême concurrence qu'il y a entre les municipalités pour les embauches désormais. Et que lorsque nous avons des départs à la retraite sur des postes sur lesquels nous ne pouvons pas ne pas mettre de remplacement, eh bien là où nous faisions des économies avant parce qu'il y avait une différence de salaire, parce que les plus jeunes qui arrivaient avaient des salaires inférieurs, eh bien aujourd'hui avec la concurrence, il est beaucoup plus difficile d'arriver à avoir des différences en négatif qui nous permettent de rééquilibrer cette masse salariale. Et puis deuxièmement, il y a des postes que nous avons créés qui nous sont obligés. Je prends par exemple l'exemple du poste d'ingénieur d'hygiène que nous avons créé au conseil municipal dernier parce que les services sanitaires se sont retirés totalement et exigent d'avoir un agent comme coordonnateur sur ces notions d'habitat indigne, etc., et de nuisance. Donc, en effet, nous pouvons essayer de faire des efforts, mais nous avons le bras tordu aussi par des obligations qui nous sont données. Et pour vous donner un exemple, Monsieur Schmitt, nous avons malgré tout bagarré avec la DRAC pour n'avoir qu'un seul poste de remplacement au niveau du Palais du Roi de Rome, alors que la DRAC nous demandait, pour répondre au départ d'une de nos agents, d'avoir deux personnes pour ce même poste. Nous avons réussi, en négociant, à n'avoir qu'un seul poste. Donc vous voyez qu'on est aussi dans cette bagarre en termes de ressources humaines pour, en effet, optimiser. Mais vous pouvez compter sur nous, en effet, sur les économies de fonctionnement. Nous sommes avec des bilans trimestriel avec tous les services et la direction générale des services suit cela avec la direction des finances. Trimestriellement, il y a un bilan qui est fait désormais des dépenses de fonctionnement par service et nous allons et nous sommes à peu près certains qu'en cours d'année, nous allons être obligés de demander aux services d'être encore plus vigilants et de resserrer en termes de fonctionnement. C'est ça aussi le pilotage, c'est du pilotage non pas parce qu'on vote un budget une fois à l'année en se disant on se pose la question une fois, non, pas du tout. Le pilotage en responsabilité, c'est bien de faire ces bilans et les projets de service que nous avons demandés en début de mandature et que j'ai demandé à la direction générale d'entraîner tous les services à faire des projets de service tous sur le même modèle, avec évidemment à l'intérieur des choses différentes, mais cela, ça nous permet aussi d'avoir un guide qui nous permette de vérifier là où toutes les économies peuvent être faites. Donc voilà, je voulais vous donner ces explications parce que en effet, c'est du pilotage très fin. En tous les cas, je vous remercie aussi de la confiance que vous faites par rapport au budget et par rapport aux efforts que nous allons pouvoir encore mener.
Dernier point, mais qui relève du détail, j'ai pu constater que l'Europe que nous avons reçue et l'Europe qu'on télécharge sur le site de Rambouillet, il y a quelques chiffres qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Alors ça, je vais le noter. Je vais le noter de façon à ce que ce soit corrigé.
Je les donnerai tout à l'heure.
Immédiatement,
mais
d'accord.
J'ai pu constater que c'était, les chiffres n'étaient pas tout à fait les mêmes.
D'accord. Donc on va, alors, on va regarder.
On n'est pas aux antipodes, mais.
Même sans être aux antipodes, Monsieur Schmitt, on doit donner la même chose. Donc on va, Monsieur Lefebvre va se rapprocher de Madame Hébert, directrice de la com, pour pouvoir être certain que nous ayons les mêmes chiffres. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je vais donc faire, je vais passer au vote du budget primitif pour l'exercice 2024, budget principal. Et donc, je vous demande de bien vouloir voter au niveau du chapitre le budget primitif pour l'exercice 2024, budget principal équilibré en dépenses et recettes comme suit. En section de fonctionnement à 66 570 094 euros et en section d'investissement à 37 113 652 euros. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc nous allons